Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Professeur, économiste, avocat, écrivain et fondateur de l'École des sciences sociales, économiques et politiques de l'Université de Montréal. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, Édouard Montpetit.
Pour moi, Édouard Monti, c'était le personnage auréolé, particulièrement par un de nos professeurs. Pour moi, c'était le personnage marquant. Et il nous exposait de l'économie politique d'une façon tout à fait... pas technique, pas scientifique, d'une façon compréhensible. Moi, enfin, Édouard Monti, pour moi, ça a été le professeur de l'époque.
Les souvenirs de Georges-Émile Lapalme à l'émission Le sel de la semaine, c'était en novembre 1968. Il fut l'un des plus grands intellectuels de son époque, pionnier de la science économique. Il considérait l'éducation universitaire comme un facteur fondamental de la modernisation du Canada français. Son parcours est d'ailleurs intimement lié à l'Université de Montréal, qu'il a contribué à faire rayonner. Mais Édouard Montpetit est aussi un homme engagé, nationaliste, amoureux de la culture. Il rêvait de conquêtes économiques pour les Canadiens français, un capitalisme à leur mesure, fidèle aux valeurs de leur société.
Mais la personnalité dominante, l'homme dont le prestige personnel a été l'un des grands facteurs de progrès de l'école durant la première phase de son existence, c'est Édouard Montpetit, professeur d'économie politique et premier secrétaire général de l'Université de Montréal. Aucun de ceux qui ont eu la chance de bénéficier de son enseignement n'en a perdu le souvenir. Montpetit enseignait plus encore par ce qu'il était que par ce qu'il disait. Par la culture, le charme personnel, la noblesse des sentiments, l'élégance de la pensée et de la parole, il nous mettait sous les yeux la synthèse des plus hautes et des plus belles ambitions qu'un jeune homme engagé dans des études comme celles que nous poursuivions pouvait concevoir au plus intime de lui-même. Entendre Montpetit, le voir, même quand à sa tribune, il réfléchissait en silence, c'était déjà désirer pour soi-même le raffinement de la pensée et des manières, la culture, la réalisation d'une œuvre dont on peut avoir la fierté.
Les éloges d'Edras Mainville en février 1957, c'était à notre radio. Alors pour nous en parler, mon invité, François-Olivier Doré, il est professeur agrégé en histoire au département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi, l'UQAC, on le joint d'ailleurs là-bas à Saguenay. Bonjour.
Bonjour Maxime.
Je disais en introduction, hein, économiste, avocat, homme de lettres, écrivain, un peu tout ça, c'est qui exactement Édouard Montpetit?
Ben, Édouard Montpetit, d'abord dire que c'est un homme qui a sa statue à Montréal. Hein. Il a sa station de métro, son cégep, sa rue. Et pourtant, c'est une figure quand même un peu oubliée de notre paysage intellectuel. Il attend d'ailleurs toujours son biographe.
Ah oui.
Et pourtant, ben, ça a été, comme vous l'avez dit, l'un des intellectuels les plus marquants, les plus respectés de la première moitié du 20e siècle, peut-être l'un des plus influents. On s'en souvient surtout comme d'un homme d'institution dont le destin est étroitement lié à l'essor de l'Université de Montréal. On le présente aussi parfois comme le premier économiste de profession du Canada français. À tout le moins, c'est quelqu'un qui a joué un rôle déterminant dans la naissance des sciences économiques au Québec, mais aussi dans l'émergence du nationalisme économique qui va trouver dans son sillage plusieurs héritiers, dont Esdras Mainville, qu'on vient d'entendre.
Ouais, alors parlons de ses origines, mais surtout de son époque. Hein. Il naît à Montmagny en 1881, il grandit à Montréal. À quoi ressemble la société dans laquelle il évolue, la société canadienne-française de cette époque-là?
Ben, en fait, c'est un fils de il est né dans un milieu bourgeois illettré, hein, de tendance libérale. Il évolue dans une famille qui est proche du Parti libéral, proche de Lomer Gouin notamment, qui est premier ministre libéral du Québec de 1905 à 1920, et dont Montpetit va rester longtemps un protégé. Et cette affinité, en tout cas avec le Parti libéral, qui est au pouvoir là, pendant sans arrêt de 1897 à 1936, Montpetit va la cultiver tout au long de sa carrière. Il lui doit d'ailleurs une bonne part de son prestige et de sa notoriété. Et donc, c'est un peu dans ce contexte-là qu'il va se hisser, qu'il va suivre, par exemple, une formation de juriste avant de bifurquer vers l'étude de l'économie et des sciences politiques et sociales dans le cadre d'un séjour d'études à Paris en 1907. Là. Mentionnons-le, à ce moment-là, Montpetit, c'est le premier boursier d'Europe du Québec, hein, c'est-à-dire le premier étudiant à aller étudier à l'étranger grâce à une bourse provinciale, qu'il obtient d'ailleurs grâce à sa proximité avec le premier ministre Gouin. Et ce séjour d'études en France sera pour lui le premier d'une longue lignée. Mon Petit va devenir, durant sa carrière, effectivement, un intermédiaire privilégié entre le Québec et la France.
Alors, typique des intellectuels de l'époque, hein, qui vont se former là-bas en Europe et particulièrement en France. Donc, c'est là qu'il découvre l'économie. On disait en introduction, pionnier de l'économie. Alors, quelle place occupe l'économie chez lui?
Alors, Mon Petit, bon, va bifurquer vers l'économie et on, durant ses études. Et on touche ici, effectivement, un aspect central, hein, très important de son œuvre. Lorsqu'il va revenir de Paris, il va d'abord être recruté pour enseigner l'économie politique à la jeune École des hautes études commerciales, le HEC. Hein, il est d'ailleurs l'un des premiers Canadiens-Français à enseigner dans cette institution-là, une institution qui était surtout marquée par la présence d'un professorat européen à ses débuts. Puis, peu de temps après, il va reprendre son enseignement à l'Université de Montréal. Il va enseigner à la faculté de droit, il va enseigner l'économie politique. Et donc, oui, par l'économie, on touche un des aspects centraux de son œuvre. Très tôt dans sa carrière, Mon Petit se saisit de cette question-là. Il voit l'économie comme revêtant un caractère très urgent, nécessaire, sinon existentiel pour le Canada français. Pour bien comprendre le sens de cet engagement-là chez lui, bien, il faut se remettre dans le contexte de transformation majeure du début du 20e siècle, hein, qui est marqué par une industrialisation et une urbanisation très rapide des Canadiens français. Alors, je rappelle que le Québec est majoritairement urbain en 1921. C'est un contexte aussi de croissance exponentielle des investissements américains sur le territoire du Québec là, pour l'exploitation de ses ressources naturelles. On est dans un contexte de poursuite aussi d'une immigration en masse des Canadiens français vers les États-Unis. Mmh. Une hausse des tensions ethno-linguistiques, notamment suite à la crise de la conscription de 1917. Donc, tout cet arrière-plan-là, contextuel, suscite un éveil nationaliste au Québec, qui est porté par des figures bien connues comme Henri Bourassa, Olivier Asselin, Lionel Groulx. Et Mon Petit en est de ce réveil-là. Sauf que pour lui, le sort du Canada français ne se joue pas sur le front de la politique ou de la culture, mais d'abord et avant tout sur le front de l'économie, qui devient pour lui le facteur prépondérant dans un contexte justement de forte poussée industrielle. Comme il l'écrit en 1917, la question nationale canadienne-française est avant tout une question économique.
Ah oui.
Et en cela, il reprend et creuse une idée qu'on a déjà trouvée, qu'on trouve chez certaines figures intellectuelles du 19e siècle, comme Étienne Parent ou Hérold de Bouchette, hein, à savoir que pour lui, un peuple ne peut être maître de sa vie culturelle et spirituelle s'il n'est pas d'abord maître de son économie et de ses intérêts matériels. Et cette idée-là, selon Mon Petit, le Canada français l'a insuffisamment prise au sérieux, en préférant plutôt surinvestir les champs de la culture ou de la politique. Et Mon Petit, ici, s'inspire beaucoup des États-Unis. Hein. C'est un grand américanophile. Il voit combien l'industrialisation, le progrès technique, la productivité avaient permis aux États-Unis le développement d'infrastructures culturelles comme les musées, les collèges, les universités. Et c'est vraiment ce qu'il espère pour le Québec.
Une sorte de rattrapage nécessaire. On va écouter ce qu'en disait justement Victor Barbeau, président de l'Académie canadienne-française. C'était à notre radio à l'occasion du 15e anniversaire de la mort d'Édouard Mon Petit, 12 décembre 1969.
Cette science économique qu'il avait été le premier à étudier en Europe et qu'il voulait être le premier à faire connaître aux nôtres, ce n'était pas uniquement pour relever le niveau matériel du peuple canadien-français. Mon Petit voyait beaucoup plus loin que ça. Il savait par expérience que pour qu'il y eût une culture, pour qu'il y eût une élévation morale et intellectuelle du peuple canadien-français, il fallait qu'au départ, il y ait une base matérielle. Et c'est précisément cette base matérielle qu'il entendait créer en donnant aux nôtres, qui en avaient des dispositions naturelles, l'occasion de pouvoir se lancer en affaires. Mais ce n'était pas les affaires pour les affaires. C'était les affaires pour une fin supérieure qui s'appelle la culture.
Voilà, les affaires pour la culture, les affaires pour le rattrapage, une sorte de capitalisme, mais pas un capitalisme à l'américaine, hein?
Non, tout à fait. Alors, son programme, c'est vraiment celui d'une conquête économique là, mm-hmm. par les Canadiens français. Hein. C'est un titre qu'il va donner à l'un de ses maîtres ouvrages, hein, La conquête économique, qui va paraître en trois tomes. Donc, effectivement, c'est pas la richesse pour la richesse. Hein. C'est vraiment l'idée de développer un capital financier, matériel, pour justement permettre à une culture de se déployer. Et la tâche n'est pas aisée pour une société comme le Canada français à cette époque-là, qui n'a à peu près pas de tradition de pensée économique sur laquelle s'appuyer. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les cadres de référence de Mon Petit demeurent assez largement littéraires, philosophiques et moraux dans son œuvre. Son œuvre d'économiste est assez orthodoxe et n'a peut-être pas la profondeur de ses successeurs, mais Mon Petit a la tâche un peu ingrate du pionnier. Hein, c'est-à-dire, mm-hmm. Et c'est, je pense que c'est à cette exigence-là qu'il faut le juger. Donc, c'est pour ça qu'il va mettre de l'avant une conception de l'économie qui est ancrée dans une logique à la fois nationaliste et catholique. Hein. Nationaliste au sens où il considère que les Canadiens français doivent reprendre le contrôle de leur économie, dont les leviers sont manœuvrés par d'autres. Et catholique au sens où, et c'est peut-être là l'aspect spécifiquement canadien-français, au sens où cette reconquête économique doit se faire dans le respect de la doctrine sociale de l'Église, avec un respect pour l'initiative privée. Mon petit, là, c'est pas un économiste keynésien. Il se méfie d'un État trop puissant, trop interventionniste. Hein. Le rôle de l'État doit d'abord être un de soutien à l'initiative individuelle et aux prérogatives de l'Église. Et c'est pourquoi son programme de conquête économique table beaucoup sur des mesures relativement conservatrices. Par exemple, mon petit reste un franc partisan de l'agriculturisme. Pour lui, le développement industriel doit se faire en symbiose avec l'agriculture. Alors, plutôt que de concurrencer directement la grande entreprise américaine, mieux valait reconstruire la société par sa base en misant sur l'agriculture et l'artisanat. Ceci dit, sur d'autres aspects, mon petit va innover. Hein, c'est quelqu'un qui va vous en appeler à une moralisation du capitalisme avec un resserrement des lois de la protection ouvrière ou sur le travail des enfants. Il va en appeler à une meilleure solidarité de l'argent aussi avec le développement d'un crédit proprement canadien-français, la mise en œuvre à grande échelle de l'idée coopérative là, au bénéfice de la petite et moyenne entreprise. Mmh. Mais surtout, et ça c'est un autre aspect très important de son œuvre, c'est qu'il fallait stimuler l'instruction, l'éducation supérieure en vue de former une élite commerciale, une élite d'entrepreneurs canadiens-français.
Oui. À l'image de la société de l'époque, bon, on va revenir sur la formation, mais d'abord, on va écouter à ce sujet les propos d'Albert Fauché, professeur à l'Université Laval. C'était à notre radio en mars 1965.
Il a été ensuite nationaliste. Il s'est fait le gardien des traditions. La société de M. Montpetit, c'est une jolie petite société pastorale qu'il veut garder ainsi, n'est-ce pas? Et dans ses recommandations économiques, si on peut parler de recommandations, il suppose toujours qu'on va conserver ses traditions, une espèce de petite vie tranquille, plus ou moins pastorale. Et il ne veut pas d'industrialisme à l'américaine qui sera susceptible de saboter ses traditions.
Oui, tout ça dans une société, on le sait, hein, qui entretient un rapport assez compliqué avec l'enrichissement personnel. À l'époque encore, l'argent, c'est un peu l'affaire des Anglais.
Oui, tout à fait. Bien, il s'agit essentiellement d'adapter cette question-là, de l'infléchir finalement à la spécificité culturelle canadienne-française.
Et de contribuer à l'émancipation de la société. Parce que et c'est peut-être là où, vous allez l'entendre, c'est Jacques Parizeau, économiste de renom, jeune économiste à l'époque, en 1969, à notre radio, qui voit chez Édouard Montpetit quelqu'un d'assez original, assez audacieux à son époque. On va l'écouter.
Il faut bien comprendre que, au moment où Montpetit commence à enseigner l'économie politique, il se trouve dans une société qui, je pense que le terme n'est pas trop fort, a des lubies. C'est une société canadienne-française extraordinairement puritaine à bien des égards, qui est le produit le plus direct de la société que Mgr Bourget, par exemple, a voulu créer, et qui discute le plus sérieusement du monde de savoir si la danse doit être permise ou pas permise, si on doit excommunier ceux qui boivent de l'alcool, et d'un certain nombre de sujets de ce genre. Vouloir lancer un cours portant sur l'enrichissement ou sur la science des richesses dans une société comme celle-là, en fait, a failli provoquer l'excommunication de Montpetit à l'origine. Dans ce sens, il est unique, bizarre, curieux. C'est vraiment intellectuellement un hippie au moment où il commence à fonctionner dans cette société-là.
Bon, hippie, c'est peut-être un peu fort. Hein?
Quand on pense à Édouard Montpetit, on ne pense pas spontanément aux hippies des années 60-70.
Pas spontanément. Bon, c'est peut-être M. Parizeau en 69. Hein, c'était Woodstock, donc influencé peut-être par ça. Sur le plan de l'éducation, c'est quelqu'un qui est très, très, très engagé dans la modernisation de l'éducation. Vous l'avez dit, c'est l'autre pilier, en fait, de son engagement. Oui. L'éducation supérieure, de quelle manière il va y contribuer?
Au début du 20e siècle, hein, les Québécois francophones sont largement sous-représentés dans le milieu scolaire par rapport aux Canadiens anglais. Oui. Et c'est particulièrement vrai dans le monde universitaire. Les obstacles sont très nombreux dans l'accès aux études supérieures. Et Montpetit est alors de ceux qui en appellent au renversement de cette tendance-là. Pour lui, la voie de succès par excellence à ce qu'il appelait la conquête de l'autonomie économique des Canadiens français, c'est l'instruction, ce qu'il appelait la restauration par l'école, et particulièrement par l'université. L'université, pour lui, est le centre de gravité de la société. Et surtout, son engagement pour l'éducation supérieure se lie à une conception particulière qu'il a du rôle que se doit de jouer une élite en société. Hein, mon petit, c'est un élitiste assumé.
Ah oui.
Il nourrit une certaine méfiance envers la démocratie, hein, qui, selon lui, lorsqu'elle était trop poussée, favorisait ce qu'il appelait une culture de l'incompétence. Hein. Bon, c'est un homme de son époque. Mmh. Or, l'élite, pour lui, c'est le principal levier de transformation d'une société, plus que l'État ou même le peuple. Hein. Et dans le cas du Québec, l'urgence, c'était de développer aux côtés des professions libérales, comme les avocats, les notaires, les médecins, les ingénieurs, qui étaient déjà passablement nombreux, une élite commerciale francophone. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'il va s'engager dans le monde universitaire. Il va fonder à l'Université de Montréal en 1920 une école très importante, l'École des sciences sociales, politiques et économiques, qui s'inscrit dans le prolongement des activités du HEC. Hein, l'idée avec cette école-là, c'était de favoriser le développement d'une culture de la compétence chez l'élite administrative et économique francophone. C'est une école qui aura jamais le même succès que l'École des sciences sociales, par exemple, du Père-Lévesque à l'Université Laval, mais qui va quand même contribuer à la formation de plus de 300 diplômés, dont certains vont accéder à de hautes fonctions publiques.
Ouais. Encore une fois, dans une société où les obstacles à l'éducation sont nombreux à l'époque, puis là, il va contribuer justement à établir les bases ou à jeter les bases de cette école. À ce sujet, l'ambassadeur Jean Bruchesi, c'était à notre radio en 1969.
Je ne dirais pas qu'on pensait à la faculté des sciences sociales comme à une faculté de luxe, mais certains disaient ça dans le monde politique, des facultés de luxe. La faculté des lettres, par exemple, était une faculté de luxe. Parce que l'on va multiplier les économistes, les politicologues, les sexologues, les pepsicologues, je n'en sais rien. Mon petit et d'autres ont lutté contre un état d'esprit qui existait, mais qui existe encore dans certains milieux, qui existe encore dans certains pays. Chez nous, cela a existé. Il faut se reporter aux circonstances, je pense, pour comprendre. Non pas pour excuser, mais pour comprendre pourquoi on a pu réagir de cette manière-là. Et puis tout de même, il y a eu une réaction. Une réaction contre cette façon d'agir, et M. Monti a été l'un de ceux qui sont à l'origine de cette heureuse réaction contre une indifférence ou une ignorance ou une insouciance.
Voilà, contexte de l'époque, hein, où il y avait des obstacles pour instaurer cette école.
Oui, absolument. Et on le redit, hein, les obstacles même à l'accès des francophones à l'université sont nombreux. Les niveaux de fortune sont plus modestes des francophones. On n'a pas de réseau d'écoles secondaires publiques encore. On a un clair déficit de volonté politique, une offre universitaire moins grande aussi, notamment à Montréal. Donc, c'est donc dire que ça n'allait pas de soi. J'ajouterais aussi, en écho à l'extrait que vous venez de faire jouer, hein, là où peut-être mon petit était épi, pour reprendre l'expression, c'est qu'il veut une éducation qui soit connectée à la vie, au réel, et qui sensibilise vraiment aux problèmes de l'heure. Comme le disait Maurice Barrès, qui l'a beaucoup influencé, hein, l'éducation devait ouvrir les fenêtres sur la vie. Et mon petit considère vraiment que c'est ce qui avait manqué à l'éducation classique avec ses lettres, ses cours de rhétorique, ses enseignements abstraits. C'est-à-dire que c'est une éducation qui avait trop longtemps vécu au-delà de la réalité, dans le domaine de l'esprit ou dans le ciel des idées. Et en cela, mon petit se rapproche un peu du frère Marie-Victorin, un autre pionnier qui était son contemporain, qui défendait lui aussi le principe d'une éducation incarnée. Et ça commençait par une connaissance du territoire physique canadien-français, dans sa géographie, sa faune, sa flore. C'est par là que commençait la réappropriation du soi collectif. Et mon petit disait un peu ça quand il plaide, par exemple, pour une étude plus poussée du milieu canadien-français. L'étude du milieu, ça revenait souvent chez lui. C'est-à-dire que pour lui, la science économique était avant tout une science de la vie qui devait partir des faits vivants et non pas de postulats d'abstraction ou de symboles, parce que c'est le milieu naturel et géographique qui provoque le milieu économique.
Ouais. Et très actif aussi en termes de vulgarisation. Hein. C'était un souci chez lui de tenter de vulgariser l'économie. Il sera d'ailleurs très actif au sein de l'Université de Montréal, secrétaire général de l'UDM. Bon, c'est un peu le visage public de l'institution pendant de nombreuses années. Mais tiens, on parle de lui depuis le début. On va l'écouter, sa voix, donc lui-même, Édouard Montpetit, c'était une conférence sur les devoirs des citoyens à notre radio en novembre 1944.
La société, par sa constitution même, impose des devoirs aux citoyens. Chacun choisit et exerce une profession ou un métier. Il suffit pour s'en rendre compte de parcourir une rue de grande ville, une artère dite commerciale, par exemple, ou même parfois une rue bourgeoise et paisible. Les uns conduisent une usine ou un négoce, les autres proposent leurs services. Grâce à cette diversité qui s'ordonne d'elle-même, sans que rien n'y préside que l'intérêt propre librement exercée sous l'égide des lois, la communauté satisfait à l'ensemble de ses besoins.
Voilà, puis on dit de lui aussi orateur exceptionnel, on l'a entendu, hein, quelqu'un qui impressionnait par ses... Oui, ses connaissances intellectuelles, son prestige également. Vous disiez au début, ben oui, on l'a un peu oublié, hein, même si pourtant il y a une station de métro à son nom, il y a un cégep à son nom, l'Université de Montréal. Quelle place il occupe aujourd'hui dans l'histoire intellectuelle du Québec, Édouard Montpetit?
Ben, Montpetit s'est éteint en 1954, hein, à l'âge de 73 ans, donc avant la Révolution tranquille, après une vie bien remplie. Et, bon, vous savez, la vie des grands personnages d'institutions, ben, c'est beaucoup ce qu'il a été, hein, oui. On l'a mentionné, il va cumuler plusieurs fonctions administratives à l'Université de Montréal, dont celle de secrétaire général, qui l'occupe quand même de 1920 à 1950, donc c'est une grosse portion de sa vie. Donc la vie des grands personnages d'institutions, ben, ça manque pas d'éclat ni de reconnaissance, mais ça vient aussi peut-être avec des renoncements. Et je suis allé voir les mémoires de Lionel Groulx qui parle de Montpetit et dans lequel il exprime une certaine déception, hein, sur Montpetit en disant que ce qui a manqué à cet homme, en qui plusieurs avaient fondé de grandes espérances, c'est, comme disait Groulx, un peu plus de caractère, un peu plus d'esprit de décision. Chez Montpetit, je cite toujours Groulx, le caractère restait en deçà du talent qui était grand. Ah. Alors, c'est peut-être ce qui explique là, le relatif déclassement de Montpetit, hein, dont la prudence, la réserve, la diplomatie qui était un peu exigée de par ses fonctions très, très protocolaires, d'allocutionniste des grandes circonstances. Mais peut-être que ça faisait en sorte qu'il ne pouvait pas répondre aux besoins d'une jeunesse inquiète, en quête d'absolu, à compter des années 30. Cela dit, gardons-nous peut-être d'un jugement trop difficile sur l'homme. C'était un érudit ouvert sur le monde, qui allait complètement à l'encontre du préjugé d'un Canada français replié sur lui-même. C'est un homme qui a ouvert des portes en inaugurant une tradition de sciences économiques au Québec. Il a contribué à poser la question économique au cœur de la doctrine de l'émancipation nationale des Canadiens français. Et cette idée, bien, elle va germer même chez ses étudiants les plus illustres. On parlait d'Esdras Mainville, mais aussi François-Albert Anger, qui sera un de ses disciples, qui sera lui-même le mentor de Jacques Parizeau qu'on a entendu. C'est dire que de Montpetit à Jacques Parizeau, il y a certainement une continuité, un fil rouge. Et mentionnons aussi que c'est un des premiers grands laïcs à se ménager une place d'influence dans l'université québécoise et à vouloir moderniser le système d'enseignement supérieur. Montpetit, c'est le premier laïc qui va occuper, par exemple, la fonction de secrétaire général de l'Université de Montréal, qui plus est dans un contexte où l'Université de Montréal vient tout juste de prendre son indépendance de l'Université Laval de Québec. C'est un moment charnière de son histoire. Donc, Montpetit a la tâche d'œuvrer à l'essor de cette nouvelle université qui est en position de faiblesse face aux universités anglophones à Montréal à ce moment-là, université qui est très pauvre, et donc qui aura vraiment la tâche du bâtisseur, de l'essor de l'Université de Montréal. Et ça, quand même, c'est pas rien, il faut le souligner.
Oui, tout à fait. Il va contribuer largement à son rayonnement. Mon invité, François-Olivier Doré, professeur agrégé en histoire au département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi, Lucas, qui nous parlait depuis nos studios là-bas à Saguenay. Merci beaucoup, François-Olivier.
Merci à vous.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Maxime Coutier. Là-dessus, bonne soirée. À demain. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.